Chapitre 8. Une dernière ressource. Camilla arriva si tard à Aldresford qu'elle fut obligée d'y passer la nuit. Trop préoccupée pour songer à l'irrégularité de sa démarche, en se hasardant seule dans une auberge et à pareille heure, elle était aussi trop inquiète pour se coucher et trop agitée pour se livrer au sommeil. Elle passa la nuit entière à se promener d'un bout à l'autre de sa chambre, sans essayer de lire, d'écrire ou de se distraire par quelque occupation. Absorbée dans ses lugubres méditations, elle se reprochait amèrement toutes les inconséquences de sa conduite. Elle ne concevait pas elle-même comment elle pouvait fuir un père indulgent dont la tendresse résistait à tous les maux dont elle l'avait chargé par son imprudence. Dès que le jour parut, elle partit et arriva à Belfond au moment où les domestiques de Bellamy ouvraient les contrevents des fenêtres. Ayant été informée par celui à qui elle s'adressa que sa sœur était seule, elle fit demander à Molly si on avait apporté une réponse d'Essrington. Le messager n'était point revenu. Elle pria Molly d'aller s'informer des causes de son retard et, après avoir dit au postillon de l'attendre, elle courut retrouver sa sœur. Eugénia parut enchantée de la revoir, mais il semblait que sa situation personnelle était empirée. Camilla aurait voulu lui taire à la désertion de Clèves, mais c'était un événement public et elle ne pouvait lui expliquer son retour sans l'instruire de cette histoire affligeante. Eugénia en fut vivement affectée et, dans l'effusion de sa douleur, elle informa Camilla de la basse avidité de Bellamy et de l'insolente barbarie avec laquelle il lui avait déclaré les sordides motifs de son mariage. Elle déplora douloureusement la faiblesse qu'elle avait eue de croire à la sincérité de son affection. « Quant à moi, ajouta-t-elle, mon malheur est consommé et je le supporterai sans murmure. Mais je vois avec douleur le sacrifice d'une nouvelle victime. » Elle mit entre les mains de Camilla un billet qu'elle avait ramassé la veille dans sa chambre. Il était sans adresse et de la main de Mistress Burlington. Eugénia crut d'abord que c'était un ancien billet tombé de sa poche, mais la première ligne la détrompa. « Je cède enfin, belle amie, à l'éloquence de votre amitié. Vendredi à 1 heure, je me rendrai dans l'endroit que vous m'avez indiqué. » Camilla fit cette lecture avec horreur. Elle connaissait le plan dont ce billet était l'acceptation, et considérant son ancienne amie comme une femme qui se perdait volontairement, elle se promit de ne jamais rentrer dans sa maison. Cependant, ses qualités aimables l'intéressaient encore, et elle résolut de réveiller l'attention de son frère, qui, étant instruit à temps, pourrait peut-être encore lui sauver la publicité du déshonneur. Elle lui écrivit le billet suivant. À Frédéric Melmont, écuyer. Veillez de près et promptement où votre sœur est perdue. C.T. Elle savait son adresse, et ne voulant point que sa sœur prît la moindre part à cette démarche, elle porta elle-même sa lettre domestique et le pria de la mettre à la poste. Décidée de ne plus retourner chez Mistress Burlington, elle se voyait sans refuge, et cette circonstance lui faisait attendre la réponse d'Essrington avec une nouvelle impatience. Elle n'arrivait pas et son embarras devenait sans cesse plus pressant. Molly Mill l'informa que le messager, qui appartenait à la poste, avait été forcé de partir aussitôt après son arrivée pour conduire une chaise à Londres. Les gens de l'auberge lui avaient entendu dire qu'il avait une lettre à remettre chez M. Bellamy, mais il n'en avait pas eu le temps. Il devait cependant revenir sur le soir. Les deux sœurs jugèrent qu'il fallait indispensablement l'attendre. Mais tandis qu'elles calculaient pour quelle heure Camilla devait demander sa chaise, elles entendirent un cheval arriver au galop jusqu'à la porte. « Serait-il possible que ce fût déjà M. Bellamy ?» s'écria Eugénia effrayée. Elles l'entendirent bientôt parler d'un ton animé qui ressemblait fort à la colère. Eugénia, tremblante, sortit pour le prévenir de la visite de sa sœur. « Qu'avez-vous fait ?» lui dit-il en entrant. « Du papier qui est tombé de mon portefeuille. » « Le voici, monsieur, » lui répondit-elle avec la fermeté produite par l'ascendant de l'innocence sur le crime. « Le voici, mais j'ai peine à concevoir comment vous pouvez vous pardonner les coupables artifices qui vous l'ont fait obtenir. J'espère au moins pour elle et pour vous que vous ne m'exposerez plus à faire de pareilles découvertes. » Il commençait une réponse insultante lorsque Eugénia l'avertit que sa sœur était dans la chambre voisine. Il reprit en baissant la voix. Je parierai que vous lui avez montré ma lettre. » La sincère Eugénia était incapable de mentir, et Bellamy, furieux, mais contenant un peu l'éclat de sa colère, lui dit « Je me souviendrai de ceci, je vous assure. Au reste, si elle est assez hardie pour en parler, vous pouvez lui dire, de ma part, que je vous enfermerai au pain et à l'eau pour le reste de vos jours, et vous pourrez l'en remercier. Je n'ai pas grand ménagement à garder à présent avec elle. Qu'est-ce qu'elle dit de Clèves et de son vieux fou d'oncle qui abandonne sa maison pour payer les dettes de votre père? Qu'est-ce qu'elle vient encore faire ici ?» Elle retourne à Grosvenor Square joindre Miss Margland. Miss Margland, il n'y a point de Miss Margland à Grosvenor Square, ni aucune autre personne qui désire sa compagnie, vous pouvez le lui dire. Quoi qu'il en soit, faites en sorte de m'en débarrasser promptement. J'ai à traiter avec vous d'autres affaires. » Eugénia ouvrit la porte et trouva sa sœur plus morte que vive. Elles se tinrent durant quelques secondes étroitement embrassées, sans pouvoir articuler un mot, ni verser une larme. « Vous n'avez point de commission à me donner, lui dit tout bas Camilla. J'ai tout entendu malgré moi, et je m'en vais sans savoir où. » Elle s'arrêta et jeta sur sa sœur un regard qui exprimait si énergiquement l'effroi de sa situation qu'Eugénia, fondant en larmes et la serrant dans ses bras, s'écria douloureusement « Ma sœur, ma chère Camilla, faut-il donc que vous fuyiez de ma maison pour aller chercher ailleurs un asile ?» Bellamy l'entendit et la rappela. Camilla la pria de lui demander s'il savait où était Miss Margland. Il vint lui-même, la salua poliment et lui dit que Miss Margland était avec Mistress MacDersey chez son mari, mais qu'il ne serait plus reçu ni l'un ni l'autre chez Mistress Burlington après s'être conduit si malhonnêtement avec son frère. « Il lui sied bien, se disait Camilla, de blâmer la conduite des autres. » Et, se tournant vers sa sœur, « De quel côté irai-je ? » lui dit-elle. Bellamy lui demanda si elle était forcée de partir avant le dîner, mais non pas du ton qui invite à une réponse. N'en voulant point faire, elle baissa les yeux pour éviter la vue d'un homme qu'elle abhorrait. Eugénia avait la mort peinte sur la figure. Elle l'embrassa et, après lui avoir fait ses adieux, « Si je savais, lui dit-elle, où vous croyez que je dois aller, votre opinion serait mon guide. »« Chez mon père, ma chère sœur. Allez donc, dit-elle au conducteur, à Essrington. » Bellamy, s'avançant, dit avec un sourire, « Je vois bien que Miss Camilla n'a pas l'habitude des voyages. » Il dit au postillon d'aller à Bagshot. Elle commença à considérer l'avenir avec indifférence. Sa situation ne pouvait devenir ni plus douloureuse ni plus humiliante. En quittant la grande route, elle s'arrêta à une petite auberge qu'on nommait la maison à mi-chemin, distante d'Essrington d'environ 9 000. Elle résolut d'y rester jusqu'à ce qu'elle eût reçu la réponse, espérant sincèrement que si elle n'était pas favorable, l'endroit où elle la lirait recevrait ses derniers soupirs. Elle descendit de chaise, paya le postillon et entra dans l'auberge, d'où elle envoya, sans perdre un moment, un exprès à Belfond. Au bout de quelques instants, elle entendit frapper doucement à la porte de la chambre. Quoiqu'un peu émue, elle dit d'entrer et vit paraître une petite fille qui lui souriait avec l'air du plaisir en faisant de profondes révérences. « Oserais-je vous demander, madame, lui dit-elle, si ce n'est pas vous qui avez eu tant de bonté pour nous ?»« J'ignore, ma chère enfant, ce que vous voulez dire. » « C'est vous, madame, qui nous donniez des gâteaux et d'autres bonbons, à moi, à Beth, Jean et Jacques. C'est vous qui avez empêché papa d'aller en prison. » Camilla se rappela l'aînée des Higden, nièce de la blanchisseuse. Elle lui demanda des nouvelles de son père, de sa tante et de sa famille. « Oh, madame, tout va bien à présent. Mon papa n'a plus de chagrin et il espère, avec la grâce de Dieu, faire bien ses affaires. » « Au moins, dit Camilla en soupirant, j'ai été utile à quelque chose et toutes mes espérances n'ont pas été déçues. » Elle apprit avec satisfaction que cette petite fille avait une bonne place et une maîtresse fort douce. Elle la chargea de hâter le messager de Belfond et lui donna un billet pour Eugénia qu'elle priait de remettre au porteur la lettre d'Essrington. Elle n'avait rien dépensé à Londres à l'exception de quelques petits cadeaux aux domestiques de Mistress Burlington. Et quoique les chaises de poste eurent presque épuisé sa bourse, elle crut ne devoir point regarder à une dépense qui pouvait abréger son inquiétude et sa résidence dans une auberge. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle désirait qu'on lui servît, elle répondit « du thé ». Elle avait passé les deux jours précédents presque sans manger et les deux nuits sans se coucher. Mais l'agitation de son âme semblait la rendre insensible à la fatigue. L'état violent où elle était depuis sa visite à Clèves avait éloigné de son esprit toute considération sur son séjour dans une auberge, et elle n'y aurait peut-être pas songé si on ne l'avait pas informé que le messager, qu'elle croyait déjà à moitié chemin de Belfort, ne pouvait y aller que le lendemain. Il n'était pas possible de disposer dans cet endroit d'un homme et d'un cheval, à moins d'avertir la veille. Il lui parut si indécent de passer encore une nuit à l'auberge qu'elle se décida à prendre une chaise pour se rendre à Essrington, mais avec tant de répugnance qu'elle désirait expirer dans la route. La réflexion ne se présente guère aux caractères inconsidérés que pour leur faire regretter de n'avoir pas réfléchi plus tôt. Les deux seuls chevaux que cette petite auberge isolée pouvait fournir étaient en route et ne devaient revenir que le lendemain. Camilla, consternée, fut obligée de demander un lit et de monter dans une petite chambre. Mais elle ne pouvait pas même désirer le repos. « Je suis, disait-elle, abandonnée, chassée de ma famille. Ma mère aime mieux ne pas me voir. Mon père ne demande point mon retour, et celui qui m'est plus cher que ma vie, celui qui m'avait accordé la préférence, qui m'avait choisi, m'a oublié. Comment pourrais-je supporter l'existence, et quand aurais-je le bonheur d'en être délivrée ?» Accablée de fatigue et totalement épuisée, elle se coucha vers le milieu de la nuit, tout habillée. Mais à peine était-elle endormie que des visions lugubres et des spectres hideux la réveillaient en sursaut. Elle se leva, et dès que le jour parut, elle sonna la petite Peggy, qui avait inspiré à la maîtresse de l'auberge un grand respect pour sa bienfaitrice, et racontant les anecdotes de Southampton. Camilla apprit d'elle que l'exprès était parti pour Belfond. Son voyage lui parut long, quoiqu'il allât avec tant de célérité qu'il mit fort peu de temps pour le long trajet qu'il avait à faire. Elle aperçut enfin un homme à cheval qui approchait au galop de la porte de l'auberge. Elle courut à lui en s'écriant « M'apportez-vous une réponse ?» Elle saisit la lettre qu'il lui tendait, reconnut l'écriture de Lavinia et monta dans sa chambre où elle s'enferma. Espérant y trouver quelques lignes de sa mère, elle se mit à genoux avant de l'ouvrir. Mais tout était de la main de sa sœur. Elle posa la lettre et s'abandonna au désespoir. « Je l'ai donc, disait-elle, irrévocablement perdue. Elle ne veut pas même m'écrire, et déjà ma vie est trop longue. » Elle reprit enfin la lettre et lut ce qui suit. « À Miss Camilla Tyrold. « Hélas, ma chère, que puis-je vous répondre relativement à nos désirs mutuels ? Mon père est à Winchester avec un avocat pour les affaires d'Indiana et ma mère est sortie avec mon oncle pour d'autres affaires dont il a chargé. Mais quand elle serait ici, pourrais-je intercéder au moment même et tandis que votre exprès attend et presse ma réponse ? Avez-vous oublié la timidité de votre sœur Lavinia ? Tout ce qu'elle osera sera fait, n'en doutez pas. Mais pour que vous ne me soupçonniez point de négligence et que vous ne comptiez pas si promptement sur le succès de mes efforts futurs, je me vois pareillement forcée de vous avouer ce qui s'est déjà passé à votre sujet. Cependant, ne perdez point courage. Vous savez qu'elle n'est jamais blessée légèrement, mais vous savez aussi que lorsqu'elle aime, son ressentiment une fois passé, tout est oublié sans retour. Hier, je la vis regarder votre portrait. Le moment me parut favorable et je hasardai de dire « Ah, pauvre Camilla !» Mais elle se tourna vers moi avec vivacité en me disant « C'est votre père, Lavinia, qu'il faut plaindre. Avait-il mérité que sa fille eût en lui assez peu de confiance pour lui cacher ses fautes jusqu'au moment où elle l'ont conduit où je l'ai trouvé ? Quelle scène ! Et quand pourra-t-elle s'effacer de mon souvenir ? Cependant, ma chère Camilla, j'ai osé dire un mot. Elle sera jusqu'à son retour infiniment malheureuse. « Elle reviendra, m'a-t-elle répondu, avec Miss Margland. Ce n'est point le moment de faire des dépenses qu'on peut éviter, et Camilla, plus que tout autre, doit se faire un devoir de la plus stricte économie. Si son intelligence était plus bornée, je lui pardonnerais plus facilement ses erreurs, mais elle suit son premier mouvement, et le sentiment l'emporte toujours sur sa raison. La malheureuse enfant, c'est cette même sensibilité qui fait aujourd'hui son tourment et qui la punit des fautes qu'elle lui a fait commettre. Qu'elle ne perde point courage. Quand vous lui écrirez, dites-lui que son père lui pardonne. Dites-lui qu'elle a toujours part à mes prières et qu'elle aura toujours ma bénédiction, quoique je ne sois pas très pressée pour le moment d'ajouter aux reproches dont elle doit s'accabler elle-même l'impression que ma présence pourrait lui faire. Je ne savais comment informer ma chère Camilla de ces circonstances, mais votre messager me presse et je suis forcée de tout vous dire dans le moins de mots possible. Il me semble que votre lettre est datée de Bellefonds, où nous savions déjà par Miss Marland que vous y êtes à demeure. Mon père et ma mère l'ont appris avec plaisir. Ils espèrent que votre séjour avec notre sœur contribuera à vous consoler l'une et l'autre. Adieu, ma chère sœur. Votre exprès ne peut pas, dit-il, attendre plus longtemps. Lavinia Tyrold. Elle ne veut donc pas me voir. Ma vue lui fait horreur, s'écria Camilla. Ô mort, ne viendras-tu point terminer mes souffrances? Implorerai-je toujours en vain ton secours? Épuisée par le besoin, l'insomnie et la fatigue de corps et d'esprit, elle se sentit si mal qu'elle crut enfin toucher à sa dernière heure. L'aubergiste entra dans sa chambre pour l'informer que sa chaise l'attendait à la porte et posa sur la table le compte de ses dépenses. Où aller? De quel côté tourner ses pas? Et comment, près d'expirer, rester dans une auberge? Comment oser se présenter à Essrington après la lettre qu'elle venait de lire? Où trouver un asile qui voulût la recevoir? Elle pria l'aubergiste d'attendre un moment et relut la lettre de Lavinia. L'observation de sa mère, relative à son premier mouvement, qu'elle suivait sans réflexion, la frappa. Elle sentit que son devoir exigeait qu'elle informât ses parents de sa situation. Elle fit dételer la chaise et écrivit les lignes suivantes. Je n'ai pas pu, malheureusement, rester chez Eugénia et il m'est impossible de retourner chez Mistress Burlington. Je suis en ce moment à la maison à mi-chemin où j'attendrai qu'on décide de mon sort. Ma chère Lavinia m'en informera. Je suis très mal et je désire sincèrement succomber. Lorsque mon père et ma mère en seront instruits, ils m'accorderont, peut-être pour la dernière fois, le bonheur de les voir. Ma mort prématurée servira peut-être à leurs yeux d'expiation suffisante à mes fautes. Ils joindront leurs prières à celles d'une coupable qui ne mérite point d'être entendue. Ils me pardonneront peut-être. Que Dieu les prenne sous sa sainte garde et comble de bénédictions mes respectables sœurs et mon cher oncle. Camilla Tyrold. Elle sonna et dit d'envoyer immédiatement un exprès porter cette lettre à Essrington. Mais le garçon de l'auberge lui répondit que cela était impossible. Le cheval dont le messager de Bellefonds s'était servi était rendu, quoiqu'il n'eût couru en allant que jusqu'au premier relais et au temps pour le retour. Le maître de l'auberge ne voulait pas qu'il fatiguât davantage avant le lendemain et il n'en avait point d'autre. Elle pria de chercher quelque autre moyen. L'homme qui avait fait le voyage de Bellefonds demanda son paiement afin d'aller prendre le repos dont il avait besoin. Elle examina le compte dont le total, avec l'exprès, la chaise qu'il avait amenée du dernier relais, celle qu'elle avait demandée pour Essrington et la dépense à l'auberge, montait à un écu de plus qu'elle n'avait en sa possession. Elle savait qu'en se faisant connaître pour la nièce de Sir Hugh, elle trouverait facilement crédit dans tout le canton. Mais dans sa situation, cette ressource lui paraissait dégradante pour elle et pour sa famille. Elle s'était assurée de faire acquitter le comte en l'envoyant dans une lettre à Essrington. Mais la phrase de sa mère, « Camilla, plus que tout autre, doit s'accoutumer au devoir de la stricte économie », ne lui permettait pas d'adopter cette mesure. Elle avait dans sa poche le cachet de son père, la bague de sa mère, la montre de son oncle et le bracelet d'Edgar. Elle résolut d'en sacrifier un plutôt que d'avoir recours à Essrington. Elle pria qu'on la laissât seule, et les tirant un à un, elle hésitait tristement sur le choix du sacrifice. « Il ne sera pas long, disait-elle, car je serai bientôt, je l'espère, dans ma tombe. Mais ne fût-ce que pour une heure, ou même à mon dernier moment, il est dur de quitter les symboles de l'affection de mes parents et du bonheur de ma vie passée. » Elle les considérait, les baisait, les pressait contre son cœur et leur parlait comme s'ils eussent pu l'entendre. Dans cette perplexité, elle continua si longtemps ses lamentations que le garçon revint avant qu'elle fût déterminée. elle demanda la maîtresse de la maison. Elle avait machinalement resserré les dons de son père et de sa mère et balancé entre le présent de son oncle et celui d'Edgar. Honteuse toutefois de son incertitude, elle remit la montre dans sa poche et, considérant pour la dernière fois son bracelet et se rappelant les circonstances qui le lui rendaient inappréciable, « Hélas, dit-elle, Edgar se féliciterait peut-être encore de savoir que tu m'as rendu un dernier service, que tu m'as épargné une dernière humiliation. » Lorsque Mistress Mar, la maîtresse de l'auberge, se présenta, elle lui mit le bijou dans les mains et détourna les yeux en lui disant « Mistress Marle, je n'ai pas tout à fait votre somme, mais si vous voulez recevoir ce bracelet pour sûreté, vous ne tarderez pas à être payé. » Mistress Marle le considéra avec admiration et dit à Camilla avec l'air de la surprise « Il est bien beau, madame, ce serait dommage de le vendre. Quoi qu'il en soit, je vais le montrer à mon mari. » Monsieur Marle vint lui-même avec l'air un peu moins satisfait que sa femme. « C'est, madame, lui dit-il, un fort beau joujou, mais je n'entends pas grand-chose à ces colifichets-là, et personne ici n'est en état de m'en dire la valeur. J'aimerais mieux que vous me donnassiez mon argent, si cela vous est possible. » Accablée de fatigue et de chagrin, elle fondit en larmes. « Hélas, disait-elle, mes amis ne se doutent pas des expédients auxquels je suis réduite. » Elle offrit sa montre, et la figure de Monsieur Mars se dérida. « Ceci, dit-il, ressemble à quelque chose, on sait ce que c'est. Avec une montre d'or, on est sûr de retrouver son argent. Mais cet autre colifichet, tout beau qu'il paraît, pourrait ne pas valoir un shilling pour ce que j'en sais. » Mistress Marle observa qu'il ne convenait point de les prendre tous deux, mais son mari répondit qu'il n'y voyait pas grand mal, et Camilla le pria de faire partir promptement sa lettre. On parvint à trouver un ouvrier qui se chargea pour une forte récompense de la porter à Essrington.